RMC, face aux grandes gueules.
C'est notre confrère Patrick Cohen, le journaliste, auteur de ce livre Les Mystificateurs aux éditions Flammarion, qui est chez nous aujourd'hui dans les GG. Bonjour.
Bonjour les GG.
Alors qui sont ces mystificateurs, ces faux prophètes de la science ?
Ce sont des gens qui sont des médecins, des scientifiques, généralement respectés dans leur domaine, multi-promus, médaillés, qui sortent un petit peu de leur domaine de compétences, qui s'aventurent sur un terrain qui n'est pas forcément leur. Premier exemple, le bouquin commence par là, Claude Allègre. Spécialiste de la croûte terrestre, grand géophysicien, et qui s'est mis à divaguer sur le climat et à répandre des choses de façon très péremptoire. C'était au tournant des années 2000-2010, dans ces années-là, et qui a eu une campagne climato-sceptique assez, on l'a oublié, hein, c'était il y a une quinzaine d'années, c'est pas si vieux, mais assez vigoureuse.
Et pourquoi vous aviez envie de dénoncer ces faux prophètes, ces grands scientifiques qui tout d'un coup racontent un peu tout et n'importe quoi sur des plateaux et aux télé?
Bon, c'est venu au sortir de la crise Covid.
C'est Didier Raoult.
Envie de parler de Didier Raoult et du Covid, mais sans parler de Didier Raoult, parce qu'on avait quand même un peu épuisé le sujet. Mais en travaillant sur le Covid, je me suis rendu compte, et au fil des chroniques que j'ai pu faire à cette époque-là, qu'il y avait dans l'histoire des sciences et de la médecine tout un tas d'épisodes qui rappelaient le profil, le même mécanisme de manipulation, de mystification. On trouve plein de points communs, notamment dans l'attitude. Je parlais d'Allègre il y a un instant. Mmh. Allègre a répété sur tous les plateaux où il était confronté à des climatologues, des vrais climatologues. Écoutez... personne ne m'arrive à la cheville, je suis le scientifique le plus diplômé dans mon domaine, etc. Donc il y avait l'argument d'autorité qu'on a retrouvé, qu'on a entendu dans la crise Covid. C'est qu'un exemple, mais on retrouve à chaque fois des traits de caractère, des comportements et des mécanismes, souvent l'irruption du politique aussi, beaucoup dans ces histoires-là.
L'importance parce qu'il y a des voix médias. À gagner pour lui dans ces cas-là.
Pardon.
Parce qu'il y a des voix à gagner pour lui.
Là, il était plus ministre, il était un peu sorti de la politique. Il y avait surtout, il vendait des livres.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a l'irruption du politique quand il voit qu'il y a une personnalité qui émerge.
Bien sûr.
Et qui draine du monde. On a vu Emmanuel Macron aller voir le professeur Raoult. On s'en souvient pendant la crise Covid, quoi.
Évidemment, et c'était un geste politique davantage que un credo scientifique.
Parce que les propos de ces scientifiques sont séduisants. Ils remettent en cause la doxa, ils remettent en cause le message officiel. Et on se dit, finalement, c'est peut-être eux qui ont raison dans un monde où les élites sont quand même régulièrement justement critiquées, accusées de défendre des choses qui sont pas la vérité. Didier Raoult, quand il racontait l'inverse de ce que pouvait raconter le professeur Delfrécy, on se dit c'est peut-être lui qui a raison.
Évidemment, c'est la mécanique médiatique dont on fait tous partie. Je dis souvent, il y a rien de plus ennuyeux que le consensus scientifique. Le 95% des scientifiques sont d'accord pour dire que vous écoutez ça d'une oreille distraite, même si souvent c'est porteur d'espoir pour soigner des maladies. Mais si vous mettez face à face ce consensus scientifique avec une opinion hétérodoxe, différente, même marginale, mais du type qui promet de vous faire des révélations sur des choses qu'on vous cache parce qu'on vous ment et que on a un médicament d'un prix très modique qui va soigner la maladie, évidemment ça vous fait dresser l'oreille de façon différente.
Barbara.
Oui, vous soulignez d'ailleurs par exemple l'exemple de Lysenko en URSS qui avait préféré bannir la génétique au profit, je cite, de la biologie prolétarienne. On voit que la science soviétique...
La génétique, c'était une science bourgeoise.
Voilà. Donc, on voit bien que l'idéologie, au-delà même de la question de l'intérêt politico-politicien, la biologie a son rôle là-dedans. Maintenant, quand vous attaquez un petit peu Allègre, vous dites que oui, à un moment, il avait dit qu'il revendique le droit au doute sur la question notamment du CO2. Mais le doute, ça fait aussi partie de la science. L'esprit scientifique, c'est l'esprit du doute aussi. Heureusement que les scientifiques sont là pour remettre en cause ce qu'ont fait leurs prédécesseurs. C'est comme ça que la science avance. Donc, il y a un certain nombre...
La recherche.
C'est comme ça que la recherche avance.
La recherche avance. Mais il y a un corpus scientifique
qui s'appuie sur le consensus académique.
Exactement, qui lui ne se conteste pas. La Terre est ronde.
Oh, vous savez, la Terre est ronde.
Ah si.
Et pourquoi Claude Allègre encore ?
Venez dans certains collèges, vous verrez grâce à TikTok, la Terre est plate. Hein. Bon, mais vous vous intéressez effectivement à la question du Covid, mais vous soulevez pas tellement non plus moi une question sur la question du Covid que je trouve majeure et qui me semble-t-il n'intéresse plus grand monde. C'est l'origine du Covid.
Oui.
Parce que oui, certes, il y a peut-être eu quelques charlatans, mais les gros charlatans, par contre, eux, ce qui ne veulent toujours pas nous dire quelle est l'origine du Covid, notamment le fait qu'on continue et qu'un certain nombre de virologues, d'ailleurs massivement, continuent de couvrir Shi Zhengli, qui est la directrice de l'Institut de virologie de Wuhan, qui quand même aurait des liens avec des groupes, y compris des virologues américains, qui auraient fait des gains de fonction sur la question des coronavirus.
Je suis entièrement d'accord avec
vous. Ce serait intéressant qu'aujourd'hui, on continue à creuser la cause du Covid.
Comment ça se fait qu'il y a encore ce mystère?
Entièrement. Tout simplement parce que les Chinois ont tout verrouillé. Parce que on n'a pas accès aux sources, qu'il y a des gens qui ont vraiment beaucoup enquêté. Barbara, c'est l'une des questions les plus débattues et les plus controversées dans le monde de la virologie et des biologistes. Moi, j'ai fait plusieurs chroniques, dont une de façon assez précoce à l'émission C'est à vous sur l'origine du SARS-CoV-2, qui est le nom du virus du Covid, en laissant ouvertes les portes d'une manipulation
de laboratoire.
De laboratoire, exactement, d'une erreur de laboratoire qui a mal tourné. J'ai reçu, c'est l'une des chroniques qui m'a valu le plus de courriers, de protestations, de dénigrements sur les réseaux. C'était affreux. Et en même temps, avec une partie de la communauté scientifique qui soutient le doute sur cette histoire, parce que la genèse de l'histoire, c'est que dès le départ, il y a eu ce soupçon à l'égard des Chinois, et les gens qui émettaient ce soupçon ont été traités de complotistes. Et c'était effectivement une erreur. Mais c'est pas l'objet du livre.
Non, mais dans le livre, il y a aussi.
Ah, si, c'est la question du doute, du fait de toujours remettre en question, ça fait partie de la démarche scientifique.
Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, parmi l'équipe de la plus puissante, du plus puissant pays du monde, il y a quand même quelqu'un qui remet tout en doute, c'est-à-dire Robert Kennedy Jr. Vous lui consacrez un chapitre, d'ailleurs.
Les anti-vax ont pris le pouvoir, sont au pouvoir aux États-Unis. Effectivement, c'est l'affaire la plus actuelle, c'est celle qui termine le bouquin, l'affaire Wakefield, du nom de ce chirurgien britannique qui n'a pas cru, hein, c'est une escroquerie, on le raconte bien dans le chapitre, mais qui a dit au monde en 98, d'abord à la Grande-Bretagne, qu'il y avait un lien entre le vaccin ROR, rougeole, oreillon, rubéole, et l'autisme chez les enfants. C'est un vaccin qu'on administre aux jeunes enfants, aux nourrissons, qui a entraîné une chute de vaccination. Il y a eu 10 ans de polémique en Grande-Bretagne. Ce toubib s'est exilé ensuite aux États-Unis. Il est interdit d'exercer en Grande-Bretagne, où il a fait des émules, notamment Kennedy Jr., qui est aujourd'hui ministre de la Santé, et Donald Trump lui-même, qui a repris ce bobard dans un des débats de la campagne présidentielle de 2016. Vous vous rendez compte, on injecte des trucs à ces petits bébés et ensuite ils deviennent autistes. Et aujourd'hui, la rougeole qu'on croyait éradiquée aux États-Unis il y a 20 ans fait un regain avec des milliers et des milliers de cas aujourd'hui.
La question des adjuvants dans les vaccins est toujours posée. Non, mais c'est une question que se posent aussi des scientifiques sur la question de certains types d'adjuvants.
L'aluminium, non, plus maintenant.
Il y a encore des gens qui se posent des questions.
Moi, il y a en lisant votre livre, il y a un nom qui est revenu dans plusieurs chapitres, sur celui sur Alex, sur lui sur le remède miracle contre le sida, c'est Georgina Dufoy.
Oui.
Alors moi, ma génération, Georgina Dufoy nous a nettement marqué.
Il faut rappeler Georgina Dufoy.
C'est l'affaire du sang contaminé. Voilà.
Du sang contaminé.
Et ministre.
Quand on voit qu'elle protège aussi Allègre dans ses dénégations, que derrière, sur l'histoire du traitement sur le sida, elle n'est pas non plus, elle fait pas son rôle de ministre de la Santé. Moi, je me rends compte à ce moment-là que ça me percute et je me dis oui, effectivement, cette dame, aujourd'hui, on l'a tous en oublié. On a même vu Fabius arriver au Conseil constitutionnel. Mais moi, ma génération était marquée par le sang contaminé. Je sais pas si vous êtes dans l'âge. Moi, j'ai 53 ans.
L'affaire du sang contaminé.
Moi, quand j'étais jeune, le sida commençait à arriver et on nous a quand même fait croire qu'à un moment donné, c'était pas si grave que ça et qu'on pouvait le soigner avec une aspirine. Moi, je trouve que ce nom-là devrait être un petit peu aujourd'hui remis un peu devant pour qu'on se rappelle un peu ce qu'elle a fait aussi.
Je suis pas sûr qu'elle était dans l'histoire du sang contaminé.
Il y a votre nom dans le sang contaminé avec Fabius, bien sûr que si. Elle est ministre de la Santé à l'époque.
Il me semble que c'était Edmond Hervé, mais enfin.
Responsable, mais pas coupable.
Elle est au tribunal, en fait. Enfin, quand ils sont jugés, elle est
dedans. Oui, vous avez raison. Absolument.
Ou elle sort la fameuse phrase.
Pardon, vous avez raison. Oui, alors Georgina Dufoy, elle a, comme ministre de la Santé, été une propagandiste active en faveur de ce qu'on appelle la médecine parallèle. Les médecines douces, y compris l'homéopathie, on le rappelle dans le bouquin. Et en tout cas, sur l'affaire de la cyclosporine, c'est-à-dire ce médicament miracle dont une équipe de médecins de l'ANEC a cru que ça allait pouvoir traiter, soigner le sida. On était aux prémices de l'épidémie de sida, 85. Effectivement, elle impulse une communication prématurée, quelque chose de pas raisonnable et une conférence de presse qui se révèle absolument désastreuse.
Ouais, catastrophe. Abel Bouilly?
Alors moi, je trouve que le cas de Claude Allègre exprime parfaitement ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, un scientifique réputé, une reconnaissance politique, mais vous expliquez que c'est à partir de cette reconnaissance politique, et il se révèle lui-même puisqu'il touche à la politique comme une sorte de showman en fait, donc il y a le canal médiatique plus la part des gens qui doutent un peu de tout. Mais quand vous parlez de mystificateur, à quoi pensez-vous? Parce qu'un mystificateur, c'est pas quelqu'un qui pense à quelque chose et qui refuse de reconnaître qu'il s'est trompé. C'est vraiment le manipulateur qui sait, dès le début, qui va emmener les gens vers une fausse route.
Alors, vous avez raison, et tous les cas, toutes les histoires qu'on raconte dans ce bouquin ne rentrent pas, ne s'accordent pas avec le mot de mystificateur. Parce qu'il y a des gens sincères là-dedans. Voilà. Philippe Even, la cyclosporine, il y croyait même.
Jacques Benveniste, c'était un homme tout à fait sincère.
Absolument, était tout à fait sincère. Simplement, ce sont des gens qui sont à un moment qui se sont assis sur les protocoles scientifiques et qui ont grillé les étapes ou qui se sont enferrés dans une croyance qui n'était pas raisonnable.
Il n'arrivait plus à sortir, comme cette fameuse théorie sur la mémoire de l'eau.
La mémoire de l'eau,
qui a alimenté, mais pendant des décennies justement, des fantasmes sur l'eau à la mémoire, l'eau est vivante,
oui, mais
etc.
Oui, mais les travaux de Jacques Benveniste sur la mémoire de l'eau, ça a permis aussi de fermer des pistes, d'en ouvrir d'autres. Les travaux scientifiques, même quand ils aboutissent à une impasse, sont intéressants.
À condition de reconnaître que c'est une impasse.
Oui, mais Benveniste, il s'est fait littéralement écharper. Enfin, je veux dire, ça lui a coûté la vie quand même. On en a fait
parce qu'il s'est enferré.
Mais c'était peut-être aussi un problématique d'ordre psychologique, mais de l'avoir traité comme on l'a traité, à le finir dans un quasi-placard, excusez-moi, c'est une façon inadmissible de traiter un grand scientifique.
Pendant 10 ans, jusqu'à un épisode que j'ai pas raconté dans le chapitre, parce qu'il a Georges Charpak, prix Nobel, l'a accompagné, s'est intéressé à essayer de comprendre ce qu'il voulait trouver. Je rappelle d'un mot pour les auditeurs, quand même, c'est important. La mémoire de l'eau, c'est l'idée d'un effet moléculaire sans molécules. C'est-à-dire que l'eau serait capable de conserver le souvenir de substances actives avec lesquelles elle a été en contact, mais qui ont disparu depuis. Et donc, ça valide le principe de l'homéopathie. Si c'est accepté, c'est-à-dire des substances hyper diluées, une hyper dilution et avec quelque chose d'un effet actif. Benveniste a cru pouvoir démontrer que ça
existait. Il a jamais réussi.
Il n'a jamais réussi à le faire. Et ça soulève aussi une autre question, c'est est-ce qu'on peut affirmer quelque chose sans comprendre comment ça marche? Parce que c'est ce qu'il dit à Charpak, et il dit vous n'y comprenez rien, moi non plus, mais ça existe. Voilà. Bon.
Mais il y a autre chose aussi. Il y a la responsabilité des présidents de la République, parce que vous insistez sur la complicité politique, même sur le cas de l'immunosuppresseur pour soi-disant guérir le SIDA. Vous parlez de la fascination de la ministre de la Santé.
Ben oui.
S'il n'y a pas François Mitterrand derrière qui dit allez-y aussi.
Alors je ne sais pas si c'est remonté jusqu'à l'Élysée et jusqu'à François Mitterrand, mais en tout cas il y a évidemment une imprudence politique et
Claude Allègre qui se permet de dire je n'écris pas un livre scientifique mais un livre politique, donc je fais ce que je veux des courbes.
Alors Claude Allègre, socialiste en rupture du PS à ce moment-là, c'était sous la présidence de Nicolas Sarkozy. On est en 2010.
Alors Patrick Cohen reste avec nous. Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Bruno Poncet, le cheminot, Barbara Lefebvre, l'enseignante, Abel Bouilly qui est avec nous, l'éducateur. Tiens, Après-demain, mercredi, on a Charles Alloncle qui va être dans les juges, dans les grandes gueules. Le rapporteur de la commission sur l'audiovisuel.
Votre ami.
Vous avez une question à lui laisser, là, ou un petit quelque chose à lui dire?
Je serais curieux qu'il puisse nous dire, en étant contredit, mais je vous fais confiance là-dessus, réellement, en réalité, ce que sa commission d'enquête, il y a eu 230 personnes auditionnées quand même, a permis de révéler sur le fonctionnement de l'audiovisuel public, parce que moi, je ne sais toujours pas.
Mais elle n'était pas utile, cette commission, quand même, pour expliquer aux Français comment fonctionne l'audiovisuel public, où va l'argent, qui travaille pour l'audiovisuel public, notamment la question des sociétés privées.
Sûrement.
Alors peut-être que Charles Alloncle avait le rôle du procureur, mais est-ce qu'il n'était pas normal aussi?
Alors il y a deux choses.
À quoi servent ces 4 milliards
d'euros?
Absolument.
Alors il y a deux réponses. La première, c'est que les deux sociétés visées, c'est-à-dire Radio France et France Télévisions, sont sans doute les sociétés les plus surveillées et les plus contrôlées de l'univers public par la Cour des comptes, par les commissions culture des deux assemblées, par le ministère de tutelle, par l'ARCOM, pour ce qui est du pluralisme. Mmh. Ça, c'est la première réponse. La deuxième, c'est que dans le cadre de la commission, le rapporteur et le bureau de cette commission ont à disposition des milliers de documents transmis par Radio France et France Télévisions.
Les salaires, sur la table.
Nos salaires, les contrats avec les maisons de production, qui produit, où va l'argent, etc. Tout est là.
Donc la transparence.
Tout est là. Donc pour faire l'enquête, il n'était pas nécessaire de jouer ce que le président de la commission lui-même, ce matin, il a parlé de voyeurisme et de tribunal populaire à propos de sa propre commission qu'il a présidée et de l'action de Charles Alloncle, et je peux me contenter de reprendre ses propos.
Alors, il y a l'utilisation de l'argent public, puis il y a aussi le biais idéologique. Si on écoute Charles Alloncle, il estime que le service public est à gauche et que c'est essentiellement des gens de gauche qui prennent la parole dans le service public. Ça, c'est revenu souvent dans ses critiques, et dans les questions, dans le questionnement.
Oui, encore faut-il le prouver. Moi, ce qui m'a choqué...
De gauche pour travailler à France Télé.
Ce qui m'a choqué, qui a été peu relevé quand même dans les commentaires sur cette commission, c'est cette ingérence inédite, et je crois jamais vue, dans une démocratie et dans une enceinte parlementaire qui a fait questionner des députés sur les choix des journalistes dans leurs éditos, dans leur choix d'invités. On a demandé à Léa Salamé, par exemple, à Charles Alloncle a demandé à Léa Salamé pourquoi elle avait invité Xavier Bertrand plutôt que Philippe de Villiers, alors que le premier vend moins de livres que le deuxième. Léa Salamé a dû justifier de ses choix. Il m'a pas questionné quand je suis venu, et c'est venu après auprès des... On m'a demandé pourquoi j'avais fait un édito. Alors j'avais fait un édito au lendemain de la démission de Jack Lang. C'était Jack Lang, ombre et lumière. C'était clair, hein, c'était l'allusion aussi à la phrase qu'il n'a d'ailleurs pas prononcée en 81 sur le pays est passé
de l'ombre à la lumière.
De l'ombre à la lumière, Mitterrand. Et il a gardé la partie lumière et il a dit mais pourquoi Patrick Cohen a-t-il dit que Jack Lang avait été un grand ministre de la culture? Parce qu'il a été un grand ministre de la culture, mais il a oublié la première. Enfin, c'est ce questionnement politique à propos de contenus éditoriaux et je crois quelque chose d'inouï. Est-ce que vous accepteriez qu'on vous demande,
parce que ça suit l'histoire du déjeuner, ça suit l'histoire du fameux déjeuner que vous aviez eu avec des cadres du Parti Socialiste. Oui, enfin le rendez-vous que vous aviez dans ce café.
Il faut expliquer, il faut rappeler.
Patrick Cohen, il est instrumentalisé, il est au service de la gauche.
Vous étiez avec Thomas Legrand dans un restaurant avec des cadres du Parti Socialiste et on vous a reproché.
Donc il est en pleine connivence avec la gauche, Patrick Cohen,
dans des propos volés avec des phrases.
Mais est-ce que ce procès qui est fait sur un biais idéologique à France Télévisions est totalement abscon, ou est-ce que ça fait réfléchir en disant effectivement est-ce qu'il manque un peu de pluralisme? Télévis, à France Télé, est-ce qu'il faudrait peut-être un peu plus édito ou éditorialiste de droite, quand je dis France Télé, France Inter, du visuel public. Est-ce que c'est quelque chose qui fait réfléchir les équipes,
Bien sûr.
Effectivement, on remplit notre mission.
C'est un débat légitime, mais pas comme ça, pas de là, cette manière-là.
Donc si le débat est légitime, ça veut dire qu'il y a un biais.
Alors comment il faudrait le positionner, le débat, pour qu'il soit légitime à vos yeux?
C'est un débat légitime parce que
mais c'est un débat qui est dans l'espace public.
Parce que le pluralisme est nécessaire partout, aussi bien sur nos antennes, sur vos antennes, dans le débat public, sur ce que doit être l'audiovisuel public et la façon de respecter tous les points de vue et de traiter l'information.
France Télévisions et France Inter fustigent en permanence CNews, mais voyez par exemple le dimanche soir, quand Julien Drey est face à Gilles-William Golnadel, il y a un face-à-face et ils sont pas d'accord.
C'est un peu la même chose maintenant quand même.
Non, Julien Drey
a beaucoup évolué.
Non, parce que vous écoutez pas. Moi j'écoute et je vous dis que
le Julien Drey qu'on a connu.
Faudrait ce genre de confrontation à France Inter.
Pardon, j'ai beaucoup de respect pour Julien Drey, mais
c'est un socio
de d'accord sur tout.
Ah non, pas du tout.
Mais pardon.
Non, moi j'écoute. Non, là j'ai écouté dernièrement sur
quel sujet ils sont pas d'accord.
Effectivement, je pense que sur la question, par exemple, du racialisme et de l'antisémitisme de LFI, ils vont être d'accord, mais je pense que là, tous les 7 Français sur 10 sont d'accord
avec
eux.
Sur quel sujet ils sont pas d'accord?
Moi, je les ai écoutés sur la question de la guerre en Iran, sur la question sociale, sur la question des carburants. Ils peuvent avoir des avis divergents, mais cette pluralité, elle existe sur les chaînes. D'ailleurs, sinon, ils seraient taclés en termes de temps de parole sur le privé. Non, je suis désolée.
Sur CNews, c'est la gauche et la nuit.
Mais sur France Inter, c'est la gauche tout le temps.
Le débat est légitime. Vous disiez le débat est légitime. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un biais dans le service public, biais idéologique? Est-ce que vous pouvez jouer les grandes gueules là au micro, Patrick, en disant oui ou non?
Moi, je crois pas, mais je suis dedans. Je suis pas le mieux placé.
Quand Natacha Polonia arrive à France Inter, quand même, il y a une bronca dans l'édition, parmi les journalistes.
Elle est toujours là, Natacha Polonia.
Oui, mais quand elle arrive, parce que comme elle est pas de gauche, quand même, il y a une bronca parmi les journalistes et les équipes en interne.
Même Benjamin Duhamel, Benjamin Duhamel a fait polémique. C'est
pas
assez à gauche pour eux.
Il est là.
Oui, non, mais vous voyez bien.
Il est à l'antenne tous les matins.
Vous jouez sur les mots. Vous pensez que Cohen, il est islamo-gauchiste ou quoi? Enfin, moi, en face de lui dans cette émission. Moi, Patrick Cohen, quand je l'entends, j'imagine pas Patrick Cohen va voter Poutou, on va se détendre un peu. D'ailleurs, les gauchistes de France Inter, ils sont partis chez Nova. Non mais la clique, on est d'accord.
Patrick Cohen est un social traître. Patrick Cohen est un social traître.
Donc il y avait peut-être un problème.
Mais de penser que France Inter, c'est un repère de gauchistes et tout, ça m'a toujours fait rigoler, en fait.
Pour Paul Vanier de Logu, France Inter, c'est déjà le fascisme. Ça, on est d'accord. Mais alors, imagine-toi, pour le reste,
on doit être au juste entre les milieu, deux.
Pas loin. Ouais. Mais n'empêche qu'on verra plus souvent de Logu et Paul Vanier chez vous qu'on ne verra peut-être Marion Maréchal. Ou quand on vient, on lui posera des questions.
On a des règles de pluralisme
qui
sont les mêmes pour tout le monde. Et
oui, mais je parle aussi du ton de l'interview, parce que quand on voit Sonia De Villers qui interviewe Marion Maréchal, je n'ai pas vu Sonia De Villers être aussi menace avec des Mathilde Panot.
Non, mais dans la commission, il y a un truc qui m'a choqué, c'est que, en fait, moi, ce qui me choque, c'est qu'on ait besoin de boîtes privées avec le payer l'argent public pour produire des programmes de qualité. Moi, je suis désolé. Moi, je regarde en priorité le service public. Ça, c'est un basique de ma famille, donc je continue. Moi, ça me choque de voir des programmes produits par le privé, alors qu'il y a quand même moyen d'avec des gens du public de faire des programmes de qualité. Et avant, c'était comme ça que ça marchait. Et les programmes n'étaient pas plus décérébrés qu'aujourd'hui, en fait. Moi, je trouve que,
Bernard Pivot ne travaille pas pour une société privée.
Quand on voit les sommes, je me dis, merde, pourquoi on fout pas ça au public avec des gens, Bernard Pivot, même. Moi, je trouve que le sac de minuit, c'était produit par du privé, le sac de minuit, par exemple.
Ça fait assez longtemps que les sociétés privées produisent, ça a d'abord été la fiction, des sociétés comme Pathé, Gaumont, etc. On produit beaucoup de téléfilms des années 60, 70, etc. Je suis assez bien placé pour le savoir, puisque comme je présente Rambovina sur LCP, l'accès aux archives, parfois on me dit, ah ben non, ça appartient, les droits sont à Gaumont ou à Pathé, etc. Donc il y a eu comme ça un apport. Et par ailleurs, je ne crois pas que dans aucune société de l'audiovisuel public en Europe, tout soit produit en interne.
On peut
en
regretter interne. L'époque des animateurs.
Mais c'est dans le cahier des charges, même de
France Télévisions. On a connu les animateurs, maintenant. Rappelez-vous.
C'est dans le cahier des charges.
Hein. C'est dans la loi. Jeune gauchiste, j'ai commencé à m'inquiéter quand je voyais les Patrick Sébastien et tous les autres, que les Guignols apprenaient les voleurs de patates, prendre des ronds phénoménaux quand même sur France Télévisions.
Mais au-delà des critiques faites au service public, est-ce que le drame peut-être dans nos métiers, désormais, ce sont les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux et derrière chaque compte se cache quelqu'un qui veut porter plainte, qui trouve que c'est insupportable de tenir tel ou tel propos, et que c'est très compliqué de faire ce métier aujourd'hui, qu'on soit dans le privé ou dans le public, par rapport à ça. Est-ce que vous l'avez vu, vous, l'évolution, Patrick ?
Absolument, j'ai vu cette évolution qui fait que le métier n'est plus le même que celui que nous avons connu, vous et moi, à nos débuts. Mais j'ai envie de vous dire, dans ce débat-là sur l'information, ce qui nous anime, hein, parce que moi je suis pas dans le divertissement, dans ce débat-là, c'est pas un match public-privé. Je pense qu'on est dans le même bateau, je dirais, là, ici, BFM, RMC, comme le groupe M6, comme le groupe TF1. Il y a des médias qui cherchent, de façon imparfaite sans doute, à s'approcher du réel, à essayer de toucher à une forme de vérité, à respecter les faits. Et puis il y a d'autres médias, des réseaux aussi qui essayent de produire des vérités alternatives. Et je pense que le danger, il est celui-là. Le démantèlement, les attaques que subit le service public, elles visent aussi, d'une certaine façon, les groupes privés aussi.
Hein. Justement, mais est-ce que vous faites partie de ceux qui disent faut fermer CNews?
Je fais partie de ceux qui pensent que dans l'état actuel, c'est purement factuel, je pense que CNews est hors la loi.
Ah bon ?
La loi de 86 prévoit un pluralisme interne dans chaque chaîne de télévision.
C'est vrai.
Et cette loi de 86 aujourd'hui, pour tout un tas de raisons et que je ne détaillerai pas, elle n'est pas respectée aujourd'hui par CNews.
Merci Patrick Cohen d'être passé par les GG, les mystificateurs aux éditions Flammarion. Merci d'être venu débattre, discuter.